Le Christ, dans l'Évangile, montre une certaine distance par rapport à l'exigence de pratique. Il y avait de son temps, en effet, des exigences de pratique. Il fallait pratiquer le jeûne, des rites d'ablution, se laver les mains et un certain nombre de choses compliquées. Et on voit que le Christ n'a jamais enseigné à ne pas pratiquer correctement sa religion. Lui-même, d'ailleurs, il allait assez volontiers, je crois, à la synagogue. Enfin, il faisait ce qu'il faut. Mais en même temps, on le voit aussi parfois ne pas faire ce qu'il faut. Et même défendre ses disciples qui, d'une certaine manière, transgressent très, très ouvertement et très largement les pratiques religieuses de son époque. Alors tout cela m'a intéressé parce que je crois que ça permet peut-être de remettre à sa juste place la question des pratiques, c'est-à-dire ce qui était pour l'Évangile la question du jeûne, qui était une des pratiques religieuses de ce moment-là. Pour nous aujourd'hui, c'est la question de savoir quelle place nous donnons à nos pratiques religieuses, c'est-à-dire au fait d'aller à l'église, de lire la Bible, de prier, de faire, enfin, ce que notre religion nous commande. Les protestants, en général, se sentent, vous le savez, relativement libres par rapport à ces exigences, peut-être même un petit peu trop, et ont plus tendance à regarder le Christ comme celui qui, précisément, traite ses exigences avec une certaine légèreté, en disant, vous savez, l'important, ce n'est pas tellement la pratique, c'est ce que l'on a dans le cœur. Et de ce côté-là, cette belle citation d'Ésaïe 58 nous plaît beaucoup. Quand il dit, l'Éternel dit, quel est le jeûne auquel je prends plaisir? Ce n'est pas une pratique religieuse que vous faites d'une façon visible et ostensible, pendant que ce moment-là, vous maltraitez vos prochains. Et donc, dit Ésaïe, enfin, Dieu d'après Ésaïe, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est le fait d'accueillir l'autre, c'est le fait de donner, de libérer. Et finalement, nous avons ce beau verset de l'Ancien Testament cité par Matthieu lui-même, où Dieu dit « Ce que je veux, c'est l'amour et non pas les sacrifices ». Donc ce que Dieu veut, eh ben, c'est que nous aimions notre prochain, que nous pardonnions. C'est finalement notre façon de vivre dans ce monde. Alors tout cela nous arrange, mais il faut bien reconnaître que Jésus n'a quand même pas jeté, je dirais, aux orties toute forme de pratique. Et dans le verset, le passage qui m'intéresse en Matthieu 9, où on le voit d'une certaine façon, je dirais, relativiser l'importance du jeûne, il ne dit pas que ce n'est pas la peine de jeûner, que toutes les pratiques n'ont aucun sens et qu'on peut tout à fait s'en passer. Il dit simplement, et c'est assez mystérieux, il dit « Mes disciples ont raison de ne pas jeûner, parce que peut-on jeûner quand l'époux est là ?» Et donc quand l'époux est là, on ne jeûne pas, ils jeûneront quand l'époux leur sera enlevé. Voilà qui est assez mystérieux. Que veut dire Jésus quand il dit finalement qu'il y a un temps où on peut se passer de jeûne ou de pratique, en quelque sorte, mais il y a aussi un temps où il sera essentiel de pratiquer les jeûnes, que était la pratique de l'époque, ou pour nous les pratiques religieuses, et ce sera le temps où l'époux sera enlevé. Alors là, c'est difficile à comprendre pour savoir ce qu'il veut dire. On peut penser que l'époux, évidemment, c'est Jésus. Ça, on y est habitué, Jésus se présente à chaque fois comme l'époux et il nous présente, nous, les humains, comme les vierges qui attendent le retour de l'époux. Et Paul lui-même dira « Je vous ai fiancé à un seul époux qui est Jésus-Christ comme une vierge pure ». Donc oui, nous sommes les invités à la noce, nous sommes les vierges pures et nous attendons l'époux qui est le Christ. Alors si on lit au pied de la lettre ce passage, ce que Jésus dit, c'est que tant qu'il est là, les disciples n'ont pas besoin de jeûner et que donc ils devront jeûner quand Jésus sera enlevé, c'est-à-dire quand il sera mort. Alors cela voudrait-il dire que finalement les disciples n'étaient dispensés des pratiques que pendant les 3 années, je dirais, de ministère du Christ et que dès le moment qu'il est mort, eh bien, les croyants doivent renouer avec les pratiques. Eh bien, je ne le pense pas, bien sûr, parce que le message fondamental de l'Évangile, ce n'est pas que le Christ est mort, c'est qu'il est ressuscité. et que par conséquent, même s'il est mort, il est revenu. Et par conséquent, l'époux ne nous est pas enlevé, il nous est redonné. Par conséquent, nous sommes bien aujourd'hui encore dans la présence de l'époux et du Seigneur, et donc nous n'avons pas à jeûner. Alors que voulait dire Jésus en disant « Ils jeûneront quand l'époux leur sera enlevé » ? Est-ce qu'il faudrait comprendre que cela ne concernerait que les 3 jours pendant lesquels Jésus était mort et pas encore ressuscité ? Ça semble douteux. Et donc je pense qu'il s'agit effectivement d'autre chose. Et cette autre chose, c'est la chose suivante. C'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'effectivement la relation à Dieu est comparée dans toute l'Écriture comme une relation d'amour entre l'homme et la femme, entre l'époux et la fiancée. Et il est vrai que nous sommes appelés à nous unir à Dieu dans une relation d'amour, de fidélité, de complémentarité même avec Dieu. Et pourtant, cette relation d'amour avec Dieu, même s'il est vrai que Jésus est ressuscité, même s'il est vrai que l'époux est présent, bien des fois il y a en nous une sorte de coupure entre nous et Dieu. Et notre amour avec Dieu n'est pas toujours parfait. Et parfois, nous nous éloignons de l'époux, parfois même nous le trompons. Autre thème biblique, avec tout le prophète Osée, qui montre le croyant comme adultère, c'est-à-dire qui, au lieu de se donner à son époux légitime, qui est Dieu, va se prostituer auprès d'idolâtries diverses, en donnant son intérêt, sa préoccupation à des choses qui ne sont pas divines. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est de dire que finalement, souvent nous sommes infidèles à Dieu, c'est vrai, et même si le Christ est ressuscité, eh bien il n'est pas toujours très réellement et concrètement présent dans nos vies. Et l'époux en question, qui est Jésus, eh bien il n'est pas toujours là dans nos existences. Il y a des moments où nous sommes sans Dieu, il y a des moments où nous sommes sans le Christ, et il n'y a pas à s'en culpabiliser, c'est comme ça. Rares sont ceux qui ont une sorte de foi constante et permanente et qui sont toujours dans la parfaite union mystique avec Dieu. Souvent, nous pensons tout à fait à autre chose. Et parfois, la préoccupation du Christ ou de l'Évangile est très éloignée de nous-mêmes. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est peut-être à cela que le Christ fait allusion. C'est que finalement, il y a dans nos vies bien des moments où l'époux nous est enlevé. Ce n'est pas que lui s'éloigne, c'est que nous, nous nous coupons de lui. Et du coup, je dirais que c'est peut-être ça que nous dit l'Évangile. Si on reprend l'importance de la pratique, il dit tant que l'époux est là, c'est-à-dire tant que vous êtes dans une sorte de plénitude de relation à Dieu, la pratique n'a aucune importance et aucun sens. Parce que d'une certaine manière, votre relation à Dieu, elle est déjà là. Mais vous jeûnerez, c'est-à-dire que vous trouverez des pratiques religieuses contraignantes quand l'époux vous sera enlevé, c'est-à-dire quand justement vous vous sentirez éloigné ou coupé de Dieu. Ça, c'est prévu par le Christ. Il y a des jours où l'époux vous sera enlevé et dans ce moment-là, vous jeûnerez. Et je pense que ça, c'est assez juste parce que c'est justement, précisément, quand notre foi n'est pas la plus brillante ou la plus parfaite, que nous avons le plus besoin de pratique ou de l'Église. Il est vrai que l'on pourrait très bien vivre théoriquement, vivre sa foi sans aller à l'Église, sans lire la Bible, sans faire aucun acte religieux. Mais si nous pratiquons, c'est parce que notre foi, justement, n'est pas parfaite. Et que donc nous avons besoin de remédier à cela. Nous avons besoin de trouver des moyens pour nous aider à redécouvrir ce Christ qui s'est éloigné de nous, ou plutôt dont nous nous sommes éloignés. Et en effet, si l'on prend la prière, par exemple, si je priais seulement quand j'en avais envie, eh bien, je crois que je passerais à côté de l'essentiel. Il ne faut pas prier quand on ressent la présence de Dieu. Mais il faut prier quand justement on ne la ressent plus. Et prier, c'est justement rechercher la présence de Dieu et se dire qu'il faut essayer de redécouvrir ce Dieu qui nous échappe. Si vous vous levez le dimanche matin avec une foi extraordinaire en vous disant « Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à l'église ou au temple pour louer Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'y aller, parce que vous louez déjà Dieu dans votre cœur. Par contre, si vous vous levez le matin en vous disant « je n'ai pas envie d'aller à l'église », c'est le moment ou jamais d'y aller, parce que ça veut dire justement que vous êtes en train de perdre ce Dieu qui vous cherche. Et il est temps, c'est le moment ou jamais, d'aller justement dans un lieu qui peut-être vous permettra de redécouvrir ce Dieu qui vous échappe. Sinon, ce serait comme, je dirais, quand est-ce que vous allez chez le médecin ? C'est l'image qu'utilise le Christ. Il dit « ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin ». Eh bien, vous allez chez le médecin quand vous vous sentez malade. Si vous vous sentez en pleine forme, ce n'est pas la peine d'aller chez le médecin, vous êtes déjà en pleine forme. Et je crois que le Christ est justement le médecin de notre âme, le médecin de notre foi. Et l'Église, eh bien, c'est l'hôpital de ceux qui ont une foi malade. Et donc, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital quand tout va bien. Il faut y aller quand notre foi est justement en manque et quand elle est affaiblie. Et je crois que c'est justement une conception que je trouve assez intéressante chez le Christ, là, des actes religieux, qui présente les actes religieux, comme le jeûne ou comme autre chose, non pas comme une réponse, je dirais, à un sentiment religieux fort, mais plutôt comme une pratique pour rendre, pour raviver ces sentiments religieux. Ce qui est certain, ou plutôt moi j'en suis persuadé, c'est que dans le fond, Dieu se fiche complètement des actes religieux. C'est ce que dit Ésaïe, finalement. Est-ce que vous croyez que Dieu, ça le passionne, que vous jeûniez, que vous vous priviez de nourriture, que vous vous vêtissiez d'un sac? Est-ce que vraiment Dieu, ça l'intéresse? Est-ce que ça lui fait quoi que ce soit? Non. Ce que Dieu veut, c'est que vous aimiez votre prochain, que vous ayez une attitude d'ouvrier, de paix, d'amour, d'espérance dans ce monde. C'est ça que Dieu veut. Vos pratiques religieuses, Dieu, à mon avis, s'en moque complètement. Ce qu'il veut, c'est des fruits de justice et d'amour. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. La pratique religieuse n'est pas le but de notre vie. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La pratique religieuse, ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ce sont des moyens de culture. Ce sont des outils pour sarcler notre champ, des outils pour émonder notre vigne, pour engraisser notre terre, des outils pour labourer, pour donner du fruit. Et un bon agriculteur ne laboure pas quand le champ de blé est en épi et est en graine. Et un bon jardinier ne sort pas son sécateur pour couper toutes les roses qui poussent sur son rosier. On coupe avant ou après, mais pas pendant. Je crois que c'est ce que dit Jésus. Dans un autre passage, dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose d'assez semblable et qui est aussi assez curieux et mystérieux, tout au moins ça m'est paru comme tel. Quand il dit en Jean 12, 35, « Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. » Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. Eh bien, je crois que c'est la même chose. Quand on a la lumière, c'est-à-dire la lumière de la présence de Dieu, alors il faut avancer. Profitons de la lumière. Et si vous avez la lumière de la présence de Dieu, marchez, c'est-à-dire agissez, faites du bien autour de vous. Et si vous avez une foi extraordinaire, ne venez pas à l'église, allez servir une soupe populaire et allez prêcher l'évangile où vous voulez, quelque part. Allez visiter quelqu'un qui en a besoin, transmettez. Si vous êtes rempli à fond de foi, d'espérance et d'amour, eh bien arrêtez de vous gonfler comme un ballon et allez donner cette foi, cette espérance et cet amour à d'autres qui n'en ont pas besoin. Mais quand vous n'avez pas la lumière, souvenez-vous que celui qui est la lumière du monde, c'est le Christ. Et quand on n'a pas la lumière, à ce moment-là, justement, peut-être, faut-il cesser d'agir. Et ça, c'est le sens du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement de ne pas manger, c'est, à la limite, d'arrêter d'agir. Et si tout à coup, ma vie perd un peu son sens, et si je perds le fondement, l'enracinement, le sens pour lequel j'agis, première chose à faire, arrêter d'agir, parce que sinon, j'agirai mal. Première chose à faire, si je n'ai pas la lumière, arrêter de marcher. Je m'arrête, je fais le point, j'essaye de retrouver la base, le fondement, le sens de ma vie. Première chose à faire, chercher la lumière. L'urgence, je dirais, quand l'époux est enlevé ou quand je suis dans la ténèbre, l'urgence, c'est de cesser d'agir. Et donc l'urgence, c'est ça, c'est de cesser de remplir son existence d'un activisme trompeur et de rester dans un certain vide matériel, qui est le sens du jeûne. Parce qu'une fois de plus, Dieu se fiche un peu qu'on mange ou qu'on ne mange pas, je dirais, à midi, mais c'est le jeûne dans le sens symbolique du terme, bien sûr, qui consiste à se priver, ou plutôt à arrêter de se remplir, et de faire un peu le vide en soi, pour sentir concrètement que l'on manque de quelque chose, et que l'on a besoin qu'il y ait une réalité qui vienne nous rencontrer et nous remplir. Finalement, cette idée du jeûne, symboliquement, c'est de dire d'éviter de remplir le vide spirituel que nous pouvons ressentir par une fausse plénitude matérielle. Alors pour cela, eh bien effectivement, nous pouvons, dans ce cas-là, prier pour demander la lumière. Nous pouvons chercher le Christ, qui est la lumière du monde. Nous pouvons lire la Bible, qui est une lumière sur notre sentier. Et finalement, utiliser tous ces moyens de notre pratique religieuse qui est de notre responsabilité, qui consiste à se donner les moyens de ses objectifs, en quelque sorte, et plutôt que de se laisser diriger par les sentiments fugaces de notre vie religieuse. Ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas agir directement sur notre foi. Des fois, nous avons la présence de Dieu, des fois non. Et nous n'y pouvons rien, en quelque sorte. Et nous ne pouvons qu'agir en amont par rapport à cela. Nous ne pouvons agir qu'en amont, c'est-à-dire pour essayer de se mettre dans une disposition favorable au fait que Dieu puisse nous rencontrer. De même, je crois que l'Évangile, finalement, n'est pas une morale. En ce sens que, évidemment, Ésaïe et l'Évangile nous le rappellent, l'important, c'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est d'agir positivement dans ce monde. Mais là encore, on ne peut pas se forcer à aimer ou à pardonner. Et je ne crois pas que l'exigence de l'Évangile, c'est de dire « faites des sourires béats à tous les gens que vous rencontrez et contentez-vous d'être bien poli avec les dames que vous croisez dans le métro ». Je pense que l'Évangile, ça n'est pas de l'ordre de l'attitude à avoir, c'est de l'ordre de la conversion du cœur. C'est-à-dire qu'au fond de soi-même, on puisse être ou on arrive à devenir rayonnant d'amour, et que l'amour ne soit pas une attitude contrainte et forcée pour se donner bonne conscience ou pour essayer d'obéir à une règle, mais que l'attitude soit un élan de générosité, de fraternité, d'accueil, de tendresse vis-à-vis de ceux que nous rencontrons. Et du coup, l'Évangile ne dit pas « faites le bien, c'est ce que Dieu veut ». L'Évangile dit « ce que Dieu voudrait, c'est que vous fassiez le bien ». Pour cela, eh bien, travaillez en vous-même, pour que le bien devienne une sorte de nature en vous-même. Le Christ le dit encore dans bien d'autres endroits quand il dit, vous savez, on ne cueille pas des bons fruits sur des mauvais arbres et on ne cueille pas des épines sur un bon arbre. Et donc, ce n'est pas en prenant un mauvais arbre et en le forçant à donner des bons fruits qu'on arrivera à quelque chose. Le mauvais arbre, il donne des mauvais fruits, c'est comme ça. Et donc, pour qu'un arbre donne des bons fruits, il ne faut pas lui imposer une règle. Pour qu'il donne des bons fruits, il faut changer l'arbre, transformer l'arbre à l'intérieur, convertir le cœur de l'arbre. Et je crois que tout ce que nous nous imposons comme pratique religieuse, en quelque sorte, et nous nous imposons tous, bon, chacun à notre manière, protestants, catholiques, orthodoxes ou autres, chacun, nous avons nos manières d'essayer d'avoir des pratiques religieuses. Je crois que ces pratiques en elles-mêmes ne sont pas, plutôt ce n'est pas elles qui sont essentielles. Ces pratiques religieuses correspondent à notre culture, à notre éducation, à ce que nous ressentons. Mais ce ne sont pas les fruits de l'arbre, ce sont des moyens pour essayer de cultiver cet arbre intérieur qu'est nous-mêmes, pour le transformer de l'intérieur et pour qu'un jour ou moins, cet arbre puisse porter des bons fruits. Et il est vrai que donc, notre responsabilité en quelque sorte, elle est au second degré, puisque nous ne pouvons pas faire le bien que nous ne sommes pas capables de faire. Notre responsabilité, elle est en amont, au niveau de notre vie religieuse, d'essayer de transformer notre être pour que, enfin, dans un deuxième temps, notre être puisse faire le bien. C'est-à-dire que la question du bien et du mal est à traiter à la base, et il faut, plus que de vouloir faire le bien, travailler à se mettre en bonne disposition pour que, enfin, nous puissions faire ensuite le bien. Et donc, vous disais-je, ces actes religieux ne sont pas une fin en soi, enfin, du moins je le pense. Ils ne sont pas non plus une réponse à notre sentiment religieux. Ils sont simplement l'expression d'un choix objectif. Et donc oui, moi, je décide de mettre dans ma vie, de donner dans ma vie une certaine place à une pratique religieuse parce que je crois que c'est bien. Et puis c'est tout. La lecture de la Bible, pour nous protestants, très importante, c'est de l'ordre de l'hygiène spirituelle. Je n'ai pas à me demander tous les soirs si tout à coup j'ai envie ou non de lire la Bible ou un San Antonio ou autre chose. Je lis la Bible, point, comme je me lave les dents. C'est de l'hygiène spirituelle. Et je ne peux pas dire que je prenne tous les soirs un plaisir extraordinaire à lire la Bible. Je ne suis pas tous les soirs ému en disant « Mais quel texte extraordinaire, quelle présence de Dieu fracassante j'ai lu dans ce texte !» Je lis la Bible et 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, le texte que je lis ne m'enthousiasme pas et ne me dit rien. Mais c'est à la longue que je finis par être transformé par ce travail qui fait que ce texte m'accompagne et finit par être une seconde nature en moi-même. Je lis la Bible comme exactement, je dirais, comme je prenais l'exemple de se brosser les dents, l'image me plaît, parce que en lisant la Bible, je frotte ma vie à l'Écriture. Et finalement, ça transforme progressivement ma vie. Pour le culte, c'est la même chose, ou l'Église. J'y vais, c'est un choix. Oui, bien sûr, il y a des choses beaucoup plus amusantes et utiles à faire le dimanche matin, mais je crois que la liturgie relance notre prière, la prédication peut éventuellement, je l'espère, raviver l'intérêt que nous avons pour les textes. La communauté nous rappelle que nous ne sommes pas tout seuls dans cette démarche et que, ensemble, nous essayons d'avancer vers le Seigneur. Et quant à la prière personnelle, là encore, et je l'ai dit souvent, trop souvent, elle est comprise comme une sorte de moment extraordinaire où on se sent uni à Dieu. Mais la prière personnelle ne doit pas être simplement quand on en a envie. Elle peut aussi être de l'ordre de la discipline. Prier, c'est chercher Dieu, et Paul nous demande de persévérer dans la prière. Et j'ai déjà dit aux habitués que, une fois, une paroissienne me disait « Monsieur le pasteur, que dois-je faire? Je n'ai plus envie de prier. » Je lui ai dit « Mais madame, priez. » Voilà. Parce qu'effectivement, si vous avez envie de prier, ce n'est même pas la peine de prier, vous priez déjà. Et c'est au moment où on n'a plus envie de prier qu'il faut prier. Parce que la prière, c'est une démarche personnelle et volontaire de rechercher ce Dieu qui nous échappe. Luther disait la même chose quand il disait « Lorsque je n'ai plus envie de prier, je cours dans mon oratoire pour prier les psaumes. » Donc il trouvait en plus un substrat, quelque chose pour l'aider bien sûr, mais une pratique. Parce que c'est au moment où on n'a plus envie de prier que d'une certaine manière, on est en danger. Et c'est pourquoi Paul dit « persévérer dans la prière ». On ne dit pas de persévérer dans les choses faciles, agréables et simples. Quand on dit de persévérer, c'est bien que la chose ne va pas de soi, qu'elle est difficile, compliquée, ardue. Et donc oui, la prière est de cet ordre-là. Je persévère dans la prière. Je persévère dans une chose qui n'est pas commode, qui est difficile et qui n'est pas évidente. Parce que je crois que c'est essentiel de me donner ces rendez-vous, ces moments de quête et de recherche avec Dieu. Alors voilà, que faites-vous pendant que l'époux est loin? C'est ça la question. Quand l'époux est là, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes dans la foi, tout va bien. Mais quand l'époux est loin, que faites-vous? Et là, il y a deux attitudes qu'on peut trouver encore dans un autre texte que nous aurions pu lire. Ce beau texte à la fin de Matthieu sur les vierges sages et les vierges folles. Que faites-vous pendant que l'époux est loin et quand l'époux se fait attendre, quand le Christ n'est pas présent? Vous pouvez faire comme les vierges folles, c'est-à-dire rien. il n'est pas là, eh bien, ça ne me dérange pas. Se laisser vivre. Et le problème, nous dit le texte, c'est que finalement, la lampe s'éteint totalement. Ou alors, comme les vierges sages, quand l'époux n'est pas là, bon, c'est difficile, eh bien, au moins, je vais soigner le carburant. Voilà, c'est ce que font les vierges sages. J'ai pas l'époux, eh bien, je vais soigner le carburant, c'est-à-dire l'huile. C'est en soi, n'est pas un but, mais c'est bon. L'huile, c'est tout cela, la Bible, le culte, la prière, la pratique. Parce que alors, nous avons quelque chose qui peut justement faire jaillir cette petite lumière qui est en nous, cette petite veilleuse qui permet un jour ou l'autre, je dirais, au grand feu de s'allumer et à ce que toute notre vie soit illuminée, transformée par la présence de Dieu et par l'union avec Dieu et avec le Christ. Et ainsi donc, voici ce que nous dit encore le Christ dans cette parabole des Vierges. Veillez et priez afin de ne pas succomber dans l'épreuve. Amen.